Ils embellissent le monde par leurs mots, dessins ou croquis. Au Japon, ils seraient considérés comme des demi-dieux vivants. Nuit et jour, ils contemplent le monde à la recherche de la beauté. Ils soufflent sur les mots pour enchanter le monde de leurs vers. Je vous emmène à la découverte des poètes, ces inconditionnels de la liberté, ces rêveurs jamais rassasiés, ces baladins cachés dans les plis du monde moderne, qui sont notre respiration, notre souffle vital. Le souffle des mots, un voyage dans le monde des poètes.
Une émission animée par Maud Hortala.
Il a toujours une idée à peindre, des mots à écrire ou un nouveau paysage à explorer. Il a l'art de colorer la vie, caché dans son atelier à Granville sur le port de pêche, où il passe son temps à peindre et à dessiner. De son pinceau, il nous montre l'invisible beauté du monde pour embellir notre quotidien. Quelques mots suffisent pour donner vie à ses dessins. Il connaît le bonheur de vivre de son art qui le porte chaque jour un peu plus loin dans le grand voyage de la vie. Il nous fait le plaisir de partager son monde dans son nouveau carnet de poèmes et de dessins qui sortira cet été. À travers ses pages, il nous emmène dans un véritable voyage poétique.
Terre promise, chose due, vue, compromis, carnet de route, carnet de notes effacé, désespéré et plein d'avenir, insouciant, amoureux. Vue de la plage, bikini. Rêveur, fatigué de la nuit, je regarde nonchalamment s'amuser les jeunes filles. Jeux innocents, désirs enfantins. Prendre sa valise, faire et refaire sa vie, faire et refaire le tour de notre terre que l'on n'a jamais fait, pour revenir enfin ici. Mer bleue. Dimanche, 14h30. Badeau, planche, roller, vieux, jeune, soleil, bien sûr. Dimanche d'été au printemps, glace, café, république, démocratie. Lutte des classes, insouciance du temps qui passe. J'ai bu une bière ou deux, j'ai dansé une valse ou deux, j'ai vu une fille ou deux, et je me suis endormi au bar. Sorti de secours, de cet hôtel ordinaire, je cherche compagnie d'amourettes. De juin, la pluie et son parapluie, ombre et lumière, le long couloir, chambre 17, un regard vers le ciel, un œil sur ton corps, s'étendre sur le lit, bondir, rebondir, voyageur immobile, éternel, retraité, perpétuel. Stendhal. J'ai déposé un message sur le fil du téléphone, mis un drap vert à un oreiller orange et j'ai pris une douche. Installé 40 watts de bonheur, luxure et espérance dans ce palace taudis de notre rue Stendhal. Transparence et soie fine, petit four et saint amour légèrement frais. Cuisine. Du rouge pour le cœur, du rose pour les lèvres, du bleu pour la vie, une belle idée d'une livre. Un peu d'eau, un peu d'huile, du café pour la nuit, du vin blanc, un pinceau, du papier, mélangez bien le tout et laissez reposer. Contemplez longuement, si le modèle vous plaît, gardez-le bien au chaud, sous la couette, près du feu, pour un soir, pour une vie. SOS. J'ai vu cette fille si jolie allongée sur le sable, assoupie, endormie, affaiblie, dans un élan de sauveteur, j'ai caressé ses lèvres et insufflé la vie dans ses poumons gonflés par l'étreinte du bonheur.
Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre du peintre et poète dans l'âme Xavier Hortala. Son prochain carnet de dessins et de poèmes sera publié aux Échantillons Savoureux cet été 2020. Le souffle des mots, un voyage dans le monde des poètes.
Une émission animée par Maud Hortala.
Alors Xavier Hortala, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez grandi en voyage, une sorte de vie nomade en suivant votre père, muté de Banque de France en Banque de France, de Vesoul à Caen en passant par Pau et Toulon. Après quelques années à vivre de petits boulots, vous êtes décidé enfin à peindre en 1994. Depuis votre arrivée à Granville, vous n'avez plus quitté vos pinceaux et vous passez tout votre temps à peindre et à dessiner des encres aquarellées dans votre atelier sur le port de pêche à Granville. Vous avez inauguré les éditions des Échantillons savoureux en publiant votre premier carnet de dessins et poèmes Terre promise en 2010. A suivi Un petit Leporello, un petit coin de paradis, tout petit Leporello de 7 cm par 5, et un autre Voyage en Grèce, un peu plus grand et en couleur. Au printemps 2019 est paru un nouveau carnet de dessins en couleur Les mots illuminent la vie, des encres aquarellées dessinées sur les pages du catalogue de la Pléiade. Un véritable petit bijou de poésie. Vous allez publier votre nouveau carnet de dessins et de poèmes qui est plutôt une sorte de journal intime, des réflexions tout droit sorties de votre tête.
Oui, c'est ça, un journal de l'atelier.
Et le titre est encore en
Home Sweet Home ou je ne sais pas encore.
Dans tous les cas, tous ces carnets sont disponibles sur le site web des éditions des Échantillons Savoureux, www.échantillonssavoureux.wordpress.com. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand et pourquoi vous vous êtes mis à peindre et à écrire? Qu'est-ce qui a fait le déclic en vous et qu'est-ce qui vous a amené ou plutôt ramené à la peinture et à l'écriture? Finalement, vous écrivez et peignez depuis votre tendre jeunesse.
Enfant, on a été baigné par un peintre, j'avais un oncle qui était peintre, il venait de mourir quand je suis né, mais il y avait beaucoup de tableaux, mon père le connaissait très bien, ce qui fait qu'on a été baigné un peu dans ces histoires de peintre et de peinture. En sixième, à Toulon, on a eu un professeur de dessin qui était peintre, qui était très humaniste, qui nous faisait découvrir l'histoire de l'art, qui était vraiment excellent. Et donc je faisais des carnets d'art, des collections de tableaux découpés, tout ça. Et puis en suivant, après, en fin de compte, j'ai un peu laissé tomber tout ça pendant des années. Je me suis remis quand j'étais dans le sud, mais je pensais pas, je faisais ça vraiment comme par passe-temps. J'avais des choses jusqu'à Paris aussi, je peignais toujours. J'étais intéressé, je peignais toujours, mais je m'étais dit que c'était pas pour moi.
Comme travail.
Oui. Et puis en arrivant à Granville, après différentes pistes, j'ai exposé pour la première fois chez Fabien Lefebvre. Il venait d'ouvrir sa boutique.
Qu'est-ce qui vous a décidé à montrer vos toiles finalement?
Au début, on est très introverti. Si on veut, on peint, mais on reste. On veut pas les montrer. Après, on montre un petit peu. Puis fil en aiguille, on dit il faut tester. Hein, faut.
C'était l'occasion.
Il faut tester avec des gens connus et inconnus, parce que c'est comme ça qu'on a des réponses. C'est un échange, la peinture. Voilà, j'ai commencé comme ça, et fil en aiguille, une petite expo là. Donc en 96, je faisais vraiment que ça.
C'est aussi des retours positifs.
Oui, quand on a des retours positifs, donc son cercle s'agrandit, on a des expos un peu plus loin. Moi j'ai exposé à Granville, après à Coutances, après à Caen, après etc. On rentre dans un certain milieu. Et après, on quitte tout le monde et puis on va vers des gens inconnus qui jugent votre peinture sans regard de l'amitié ou de la famille.
Oui, un jugement plus neutre.
Voilà.
Vous avez toujours mis des petits mots dans vos peintures ou vos dessins?
Eh ben, j'en mets pas tellement dans les peintures, j'en mets surtout dans les dessins. Parce que dans les toiles, c'est plus compliqué. L'œil, après, s'accroche trop, ça nous guide trop.
Et puis dans les peintures, il y a quand même plus de couleurs.
Oui.
Les couleurs sont plus présentes.
Il faut laisser plus de mystère.
Et du coup, les carnets de dessins et les dessins permettent justement plus cette approche des mots et des petites phrases et des poèmes, finalement.
Oui, tout à fait.
Les tout petits livres, là, c'est vraiment des poésies de poche, des sortes de petits carnets à transporter partout en voyage. Qu'est-ce que la poésie pour vous?
La poésie, j'appelle ça de la poésie ordinaire, de la poésie de tous les jours. C'est l'esprit qui divague un peu, et puis qui aligne des mots. Ça peut être composé comme un haïku, et puis après ça peut être aussi de la poésie sans respect des règles, avec un rythme. Ça reste quand même sur la terre, terre à terre, pas...
Finalement, c'est la liberté d'expression de votre inconscient.
Ouais.
Et justement, aussi, ces petits dessins, ils sont quand même plus rapides à réaliser que des grandes toiles qui doivent
Ouais.
avoir plus de réflexion. Alors peut-être que ça permet aussi plus une expression plus libre.
Ouais, plus légère, plus libre, oui, certainement. Je calcule pas, alors. Je vais faire des dessins, puis après je vais faire des toiles. Il n'y a rien de précis dans tout ça. Alors, il y a beaucoup de dessins qui sont pas finis, qui sont juste ébauchés, ou bien avancés, ça dépend. Puis qui restent là pendant des jours, des mois. Et puis un jour, toc, le texte arrive, tout se met en place et...
Comment vous les choisissez ces petits mots? Est-ce que vous les méditez longuement ou est-ce que c'est plus dans la continuité du dessin?
Pas obligatoirement. J'ai des carnets, j'écris des trucs à gauche, à droite, sur interne, sur l'ordi ou sur des petits papiers. Et puis un jour, tout ça reste comme un nuage. Puis d'un jour, tac, tout s'enclenche.
Ça mûrit.
Il faut attendre le moment où ça s'enclenche.
Alors on va tout de suite écouter un deuxième extrait de Terre promise.
Souvenir. Los Angeles, mon ami, les pin-ups, les seins gonflés d'espoir, des strings à la vanille. Je m'endormais sur ces images de midinette, des bikinis passés à basse altitude, bombardant sans répit ma valise pleine de mots. Défoncer, s'allonger sur ce lit immobile et sentir au travers de son corps l'état du ressort, rebondir et gémir, ami, entends-tu les joies de l'amour, les grincements des cœurs, les râles du plaisir et les trains qui passent. Une bière ou deux, fin de vie, fin de toi, te voir, te sentir, te toucher, disparu, revenu, la femme invisible du marin assoupi. Rendez-vous. Des mots, des phrases, des histoires, des rêves, des envies, des désirs, des saveurs, des senteurs, te toucher, te caresser et rire et sourire. Il me reste tant de choses à découvrir que je reviendrai demain danser avec vous. Jours heureux. La soupe est chaude, le pain est sec, le vin est rouge, la radio, la télé, les enfants et les bruits de la rue. C'est le repas du soir, pain frais, vin blanc, poisson garni, soufflé, glace vanille, petit café et baiser. Libre. La liberté est certainement cachée derrière les barreaux. Berlin. La vie est toujours plus belle de l'autre côté du mur. Prévision. Au cas où vous me donneriez un baiser, j'ai acheté une bouteille, une bague et une auto. Une maison, un bateau. Au cas où. Hommage aux femmes dénudées accrochées dans les vestiaires des travailleurs. Paris. On a dormi côte à côte, on a respiré la même vie, on a marché sous la lune et on a traversé Paris, ou l'inverse.
Alors, quand on lit vos carnets, on est transporté dans un autre monde, celui de votre poésie. C'est un peu envoûtant, ça se lit et se relit sans fin. Les mots sont choisis avec justesse et humour. D'où vous viennent toutes ces idées?
Bah de la vie, hein. Pour regarder la vie, par de la lecture, par un journal, par un article, par un regard sur quelqu'un, un échange, une visite, un magasin, un café. Ça vient de la réflexion sur la vie, sur l'humanité, qu'on est là pour s'aimer, pas pour guerroyer. Je suis un humaniste. J'aime bien les compromis. Tout le monde parle et puis on se met d'accord. Et puis voilà. Donc mes dessins, c'est un peu ça aussi.
C'est pour divulguer la liberté
La liberté
de
fondamentale, oui,
vivre.
de vivre, puis d'avoir des idées, puis de faire les choses.
Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins?
Et ben, de faire les choses que j'ai envie de faire pour montrer, et donc je fais de la peinture. Et de fil en aiguille, c'est mon moteur.
Donc vous vous levez pour peindre.
Ah oui.
Et finalement, vous pourriez vous réveiller pour peindre.
Ah ben oui, ça m'est déjà arrivé.
Quelle est votre philosophie personnelle? Vous avez un petit leitmotiv dans la vie?
Faire ce qu'on doit faire.
Alors on écoute un autre extrait de Terre promise.
Ma Suisse. J'ai acheté un coin de paradis, au sixième près du ciel. J'y vois tout ce que j'aime, le Mont Blanc, la mer Égée, les îles Chausée, la tour Eiffel. Des bars de la marine où des princesses en tutu sirotent du Saint-Véran en parlant de la pluie, du vent et de la pêche aux maquereaux. J'y ai même mis un petit coin de Suisse. Mystère. L'homme à sa fenêtre regarde passer le temps. La pluie. Le temps est gris, la mer est démontée et il pleut dans ma chambre. Force 9. Il y a du vent dans les voiles, il y a du vent dans la vie. Ça secoue de tous côtés, les cerises vertes tombent sur le sol mouillé. La tempête est là, souffle frais, terrible, bruyant, redoutable, remuant. Comment lui faire confiance? Rage, sombre, grave. Blues. Je suis né dans ta rue, j'ai grandi dans ton lit, j'ai goûté à ta vie. Ho, ho, ho! Emmène-moi, ma chérie, loin des hommes. Mieux. Quoi de mieux qu'un baiser à l'hôtel par un après-midi pluvieux? Espoir. Le soir, dans le noir, je bois tout seul du vin presque noir qui me tache les lèvres jusqu'au petit matin. Communiste. J'ai acheté une faucille pour l'herbe au lapin et un marteau pour fixer au mur le portrait de mon ami. Je ne vois pas pourquoi ça en fait toute une histoire. Voyageur. Terre promise, chose due, vue, compromis, carnet de notes, effacé, désespéré. Et pleine d'avenir, d'un amoureux insouciant.
Alors, nous sommes toujours avec Xavier Hortala, peintre et poète dans l'âme à Granville. Alors, vous nous avez dit votre professeur en sixième de dessin qui vous a vraiment appris à dessiner et à peindre, mais...
À regarder.
À regarder, oui, le regard qui est extrêmement important. Finalement, c'est la construction d'un regard à soi. Mais du coup, qu'est-ce que vous apprend la peinture?
La peinture, l'art, c'est inutile à la vie tous les jours et c'est indispensable. On est obligé de créer, de découvrir, de faire des choses, et puis après de les équilibrer, de travailler pour que ce soit un peu inusable la peinture, il faut que ça se tienne. Mais après, on sait bien que le temps, ça délaisse, après ça revient, exactement comme les autres peintres. Hein. Van Gogh n'avait pas vendu un tableau de sa vie, peut-être dans 100 ans ça va changer, Picasso sera plus à la mode. Enfin, il y a les banquiers, après il y a l'argent qui fait le marché de l'art.
Un autre sujet. En peignant chaque jour, votre regard, il s'enrichit, il change. En 20 ans de peinture, ça a considérablement changé.
Ça change, mais ça reste toujours la même ligne. Après, on va voir des intérieurs, des natures mortes, des couples, des femmes seules, des femmes, des hommes seuls, un petit peu.
Toujours mais un le peu. Le trait, comme Picasso, il disait, il fait une colombe en 30 secondes, mais c'est 25 ans de colombe
oui, de toute façon, c'est...
dessinée. Donc le trait est plus direct peut-être maintenant.
Plus simple, oui, ça va plus vite. Mais ça va pas plus vite au niveau de la réalisation de la peinture, ça va plus vite au niveau de la mise en place. Mais après, comme moi j'aime bien, je veux pas refaire toujours. Donc je change des détails, je cherche toujours, surtout là, ces périodes où il n'y a pas d'expo qui arrive tout de suite. Ça me permet d'avoir du temps pour essayer d'autres choses, de varier, sans quitter ma voie, mais en...
Des expérimentations.
En bougeant.
Vous peignez tous les jours, mais ces temps d'exposition, ils mettent un peu une pression pour finir des choses peut-être qui étaient...
Oui, quand je vais avoir des dates, bon là, c'est une question pratique, il faut avoir 40 tableaux. Et je vais avoir des nouveaux, je vais avoir machin. Donc tout ça, ça va, hop. Il y a des tableaux qui vont aboutir, qui sont restés près de 3 mois à l'arrêt, et hop.
Mais est-ce que vous construisez une histoire aussi, peut-être dans la scénographie que vous avez, des tableaux que vous allez disposer?
Oui, ça dépend, ça c'est pas obligatoire. J'essaye de faire un rythme au niveau des couleurs et de la taille, des sujets, mais après, il y a eu des histoires, j'ai fait les poissons du dimanche, j'ai fait les congés payés, donc là il y avait des thèmes, et puis après ça dépend, c'est ouvert ça.
Et vous n'avez jamais peur de plus avoir d'idées?
Non, pas les idées, ça va, c'est plutôt la réalisation par moment. Les idées, après on peut peindre une cheminée, tous les sujets sont ouverts. C'est la réalisation plutôt après, comme on n'a pas envie de refaire.
Oui, mais finalement, même en refaisant toujours le même sujet, un peu comme Balthus qui a toujours peint, toujours les mêmes femmes, même sa femme, finalement, c'est jamais les mêmes tableaux quand même.
Ah non, oui, ça c'est sûr. Même rien que le temps et tout ça, Ça peut être le lieu, la météo, la lumière, tout ça nous amène à varier.
Et l'état d'esprit, oui, dans lequel on peint.
Oui.
Dans quel paysage vous vous sentez le plus vivant, justement?
Ici, je suis bien, à Granville. Après, je suis bien aussi à la montagne. Il y a plein de... dans le sud. Il y a plein d'endroits où je pourrais peindre, m'arrêter, puis peindre.
Finalement, vous êtes un vrai nomade.
Paris.
Vous êtes plus avec vous-même et vous transportez votre petite valise de...
Paris, je suis très bien à Paris. Il faut avoir un endroit un peu ouvert, un peu de caractère.
Si la musique était un paysage, certes un paysage invisible, mais quelle serait votre musique?
Un vieux morceau que j'écoutais il y a 40 ans. Il y avait un copain qui chantait ça tout le temps. C'était Hollywood par David McNeil sur l'album Les années Sarava. C'est David McNeil, c'est le fils de Chagall, du peintre.
On écoute tout de suite.
Ma mère dansait dans les bars imitant Jean Harlow. Mon père lançait les poignards au cirque Buffalo. Puis on m'a dit un jour que West et moi j'ai pédalé de New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors j'ai usé mes coudes à frotter les comptoirs avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Le long de Sunset Boulevard, bras dessus, bras dessous, on perdait ses derniers dollars dans les machines à sous. Un jour Benjamin Chancar, le cousin ou le frère du type qui joue du sitar à la cour d'Angleterre a gagné au dé le droit d'être un an son amant. On est allé vivre à trois dans son appartement. Elle ramenait des voyageurs, des collégiens timides qui pouvaient faire de dollars l'heure quelques polaroïdes. Elle nous mettait dans la cuisine pour ne pas qu'on regarde. En deux mois on jouait tout Gershwin sur des verres à moutarde. On a fait du music hall déguisé en hindou. Elle dansait en baby doll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sous le capot d'une Dodge ou Cadillac. J'ai ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis il a continué sa vie d'indo-errant. Moi je suis retourné vivre chez mes parents. Ma mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Mon père avait tué son aide au cirque à Buffalo.
Le souffle des mots, un voyage dans le monde des poètes.
Une émission animée par Maud Hortala.
Nous sommes avec Xavier Hortala, peintre et poète par nature, pour la sortie de son futur carnet aux éditions des Échantillons Savoureux. Ce qui est génial dans vos carnets, c'est votre réflexion sur le monde, qui est donnée par petites touches, dessin après dessin, mot après mot. Vous partagez avec nous votre approche au monde, votre regard sur la vie. Mais alors, comment avez-vous construit votre regard? Nous avons tout de suite une petite rubrique « Ni Dieu ni Maître » pour en savoir plus sur ce qui vous guide intérieurement.
Ni Dieu ni Maître.
Ni Dieu ni Maître.
Ni Dieu ni Maître.
Alors, Xavier Hortala, quel serait le personnage qui vous guide, que vous tenez en maître?
Bon, il y en a beaucoup, mais là j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans le cinéma italien, et je pense à l'acteur Mastroianni. Parce que j'aime bien quand dans ces films, là, j'ai des images, l'Italie, il est politique sans être politique, il est vivant, séducteur. J'aime bien sa démarche, et simple. Est très simple.
Et un cinéaste?
Fellini, le cinéaste italien, il y en a même d'autres. Almodovar, espagnol formidable. Et Woody Allen aussi, qui est critiqué en ce moment, mais qui est aussi extraordinaire.
Et quel serait votre film favori?
Voilà, j'ai parlé de Fellini, alors je pense à La Cité des Femmes, mais ça peut être, il y en a plein d'autres. Almodovar, Volver, mais les autres aussi sont bien. Woody Allen, Whatever Works, c'est assez drôle.
Alors, un livre qui vous a particulièrement inspiré?
Les Contes de la Folie Ordinaire, de Bukowski. Après, il y a tous les auteurs, Giono, Hemingway, Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, Sylvain Tesson, etc. Les auteurs poètes vivants.
Qu'est-ce que ça raconte de l'insoutenable légèreté de l'être?
C'est toujours entre les choix qu'on fait dans la vie. Rien que le titre, je trouve qu'on peut être très léger dans des moments dramatiques et puis on prend la légèreté, un peu d'amour, un peu de ci, un peu de ça. Ça nous aide à vivre.
Et un auteur dont vous pourriez lire tous les livres?
Hemingway, Tesson, Kundera, je les ai tous. Il y en a beaucoup que j'ai presque tout lu.
Et un musicien qui vous touche particulièrement?
Leonard Cohen, pour son rythme, sa voix lancinante et son...
Le souffle des mots.
Le souffle des mots.
Alors on écoute tout de suite Avalanche par Leonard Cohen.
Stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. When I am on a pedestal. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. You who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my wound. To long for you, I who have no greed, I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. In those rags for me, I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved, it is your flesh that I wear.
Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
Ni Dieu, ni maître.
Nous sommes toujours en compagnie de Xavier Hortala, peintre et poète, pour ses carnets poétiques édités aux Échantillons Savoureux. Qu'est-ce qu'une page blanche pour vous ?
Une page à remplir.
Mais vous, comment vous choisissez vos sujets et surtout comment vous surmontez la page blanche ?
La page blanche, je regarde dans la rue, puis, ou dans la campagne, ou dans le bord de mer, et la page blanche disparaît. Un caillou, il y a tellement de choses là.
Et quelles sont les sensations que vous souhaitez transmettre aux spectateurs ou aux lecteurs de vos dessins, de vos carnets, de vos peintures?
Je veux que ça soit une sensation de... que ça soit un peu décalé, que ça soit pas la logique de la vie. Il faut toujours que ça soit légèrement décalé. Pour laisser le doute, il faut toujours qu'il y ait du doute dans chaque chose qu'on fait. Il faut qu'il y ait du doute, le choix, le doute.
Vous doutez?
Oui, tout le temps.
Comment s'accordent justement les mots, les formes des dessins? Comment construisez-vous le mouvement entre le dessin et les textes?
J'essaie de donner un rythme au tableau pour que le regard se porte, puisse tourner, qu'il y ait quelque chose à chercher, à trouver. Il y a une vue d'ensemble, puis après le regard peut se porter sur un petit détail, revenir. C'est comme la musique, hein, il faut arriver à passer, donner un chemin qui soit ouvert pour les gens, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ça comme ça. Il y a ceux qui ne vont pas rentrer dedans du tout. Chacun remet ça à sa façon, parce que moi je fais une chose, mais après c'est regardé par les autres, et les autres ils mettent leur vie dans le tableau.
Finalement, c'est presque le dessin qui est illustré par le texte, plutôt que d'habitude le texte qui est illustré par un dessin.
Non, c'est le dessin.
Alors on écoute tout de suite un extrait de votre prochain livre.
Découvrir la vie, un jour s'apercevoir que l'on est sur la route, traversée terrestre, Pourquoi? Comment? Et toujours courir après. Et après quoi? Je ne me souviens plus. J'aimerais être sans histoire. Simple et besogneux, employé de mairie, installateur d'antennes, ramasseur de cailloux, passeur de sourires, peut-être. Douce terre, douce vie qui s'écoule. On profite, on cueille, on croque, on oublie, on massacre, on traite, on détruit et on s'en va.
Alors de retour avec Xavier Ortala, peintre et poète, tel un cheval lancé au galop, il ne s'arrête plus de peindre et d'explorer le monde avec ses pinceaux. Il nous raconte ses pensées à travers ses dessins et ses peintures. Et nous continuons de découvrir son univers. Alors Xavier Ortala, en Géorgie, il y a un dicton qui dit « On distingue dans l'eau son propre visage, mais dans le vin, on aperçoit le cœur d'un autre ». Comment pourriez-vous le continuer? Qu'est-ce qu'on aperçoit de vous à travers vos dessins, votre peinture, votre poésie? Votre âme? Votre souffle vital?
Certainement, un peu. Ben c'est ce que je dis quand on me demande une bio, je dis ben regardez les tableaux et vous verrez un peu ce que je suis. À la fois humain et un peu d'humour, un peu de sexe, un peu de temps qui passe, d'immobilité.
C'est votre propre vision de la vie?
Oui, je pense.
C'est quoi pour vous la vie?
La vie, c'est un moment qu'on a sur Terre et qu'on se doit de partager, de donner, de recevoir.
Et qu'est-ce que le bonheur pour vous?
Le bonheur, c'est de peindre.
Le bonheur se cache dans la peinture?
Oui.
On écoute tout de suite votre musique du bonheur, Les Nocturnes de Chopin par Arthur Rubinstein.
Nous sommes toujours avec Xavier Hortala, peintre et poète entre mots et peinture. Alors, enfant, de quoi rêviez-vous ?
Bah, peut-être d'être peintre.
Peut-être, je suis pas sûr, mais on m'a dit que je voulais être pompier, mais pas sûr non plus.
C'était trop sportif, peut-être.
Peut-être.
Et qu'est-ce que vous changeriez si votre vie était à refaire ?
La période fin d'adolescence, 18, 20 ans, 25 ans, ces périodes-là sont un peu... J'ai appris aussi, j'ai appris des choses, mais j'étais pas si bien que ça dans ma peau et trop influençable. J'aurais fait plus d'études sur l'art, par exemple. J'aurais essayé les beaux-arts ou choses qui me... Mais bon, je regrette pas, de toute façon. Peut-être architecture aussi, qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on apprend plus vite, quand on a des bases techniques, on fait les choses plus vite. On ne découvre pas, on ne réinvente pas tout. Mais ça vous met dans un moule aussi.
Et de quoi êtes-vous nostalgique ?
Les années qui passent.
Et qu'est-ce que vous faites pour guérir la mélancolie de la vie ?
Un petit verre de blanc, de temps en temps, ça fait du bien. Des projets, des envies de voyage, d'échange avec des gens qu'on voit moins, qu'on aime bien voir aussi, discrètement.
Et alors maintenant, une petite rubrique pour découvrir les saveurs de votre vie.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Alors, Xavier Hortala, quelle est votre Madeleine de Proust ?
Un croque-monsieur.
Mais lequel ?
Que ma mère faisait quand on était petit. Il y avait un moule, un seul moule, donc c'était un par un. Comme on était six, c'était assez long. Après, je m'en refais de temps en temps.
Et qu'est-ce que vous aimiez dans ce croque-monsieur particulier ?
C'est pas ça croustillait, c'était le fromage fondu à l'intérieur. C'était à la fois sec et mou.
Quel souvenir vous évoque ce plat ?
C'était à Vesoul, je crois. Donc c'est la vie de famille, j'étais tout petit, c'était le dernier. Une famille, on était quatre enfants.
Et alors, quel est le truc, l'astuce peut-être pour ne pas louper ce croque-monsieur, si les auditeurs veulent s'en faire ?
Je sais que ma mère mettait du beurre à l'extérieur, pas mal de beurre à l'extérieur.
On pré-tartine le croque-monsieur.
Ouais, de l'extérieur.
Avant de le griller.
Ah oui, avant de le mettre dans le moule.
Le moule bien chaud.
Ah oui, bien chaud. Du pain de mie, pas du pain de mie des magasins, c'était du pain de mie du boulanger.
Et quel est votre plat favori, celui que vous avez envie de manger le plus souvent ?
Des pâtes. Oui, des pâtes à l'italienne. C'est mon côté italien. J'avais une arrière-grand-mère italienne.
Quel serait le plat que vous auriez envie de manger pour votre anniversaire ? Le plat de fête.
Un homard frit.
Homard nature, frites croustillantes. Ouais. Et votre boisson favorite ?
Vin blanc, vin rouge.
Et pour finir, votre dessert ?
Île flottante. Île flottante maison, fabriquée avec grand soin, pas des îles flottantes du commerce.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Alors, cet été sortira votre nouveau carnet de dessins et de réflexions finalement sur le temps qui passe et la vie. Vous, de quoi rêvez-vous ?
Je rêve que tout le monde s'entende bien et qu'on change de cette... En ce moment, je trouve que la politique est vraiment très mauvaise et la vie est compliquée parce que tout le monde se mêle de tout et on veut des trucs. Il faudrait que je rêve que les gens fassent ce qu'ils ont vraiment envie de faire et qu'ils arrêtent de se plaindre.
Finalement, c'est votre utopie.
Oui, parce que la plainte, en fin de compte, c'est la soumission, c'est la plainte, c'est la soumission, c'est subir. On est libre, donc la seule chose à faire, c'est de faire les choses. On fait les choses pour soi, pour les autres. C'est pas en attendant que quelqu'un vous donne quelque chose que ça va arriver, ça arrivera jamais. C'est à vous de faire les choses, à chacun.
Alors, est-ce que vous auriez un petit coup de cœur musical à nous faire partager ?
Mourir pour des idées.
De Georges Brassens.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées, n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Alors, nous sommes avec Xavier Hortala pour son prochain livre qui paraîtra cet été 2020. On ne sait toujours pas comment il va s'appeler, mais c'est vraiment des réflexions sur le monde actuel.
Oui, la vie, le monde, sur un détail de la vie ou sur une idée plus importante.
Il y aura aussi des dessins.
Oui, ce sera moins illustration, ce sera plus des textes et des dessins.
Plus de textes.
Oui.
Alors, ces dernières années, vous avez publié plusieurs carnets de poèmes et de dessins qui sont tous disponibles aux Échantillons Savoureux, maison d'édition Grand-Villèze. Donc Terre Promise, qui est réédité maintenant pour la troisième fois, Des petits Leporello, Voyage en Grèce et Un petit coin de paradis, et au printemps 2019, Les mots illuminent la vie. Ils sont tous disponibles sur le site web par commande www.échantillonsavoureux.wordpress.com et on peut aussi venir vous voir à votre atelier 15 rue Malpagne sur le port de pêche à Granville.
Après le 15 juillet.
Alors, merci Xavier Hortala et au revoir.
Au revoir.
Et donc, nous finissons en musique avec un morceau de votre choix, Bachoum, Les mots bleus.
Mots bleus, en pensant à Christophe.
Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile et nous retrouverait, nous retrouverait. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Je lui dirai. Je lui dirai.